Georges-Louis Boucher, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Aujourd'hui, dans le cadre de l'interview politique, eh bien, on va faire, comme d'habitude, un petit tour d'horizon de l'actualité politique belge, mais aussi internationale. Et je vous propose de commencer par ce qu'on a appris il y a très peu de temps. Hein, Georges-Louis Boucher, vous devenez officier de réserve dans l'armée belge. Vous avez confié que cette volonté, elle vous est venue à la suite de l'invasion russe en Ukraine. Alors, vous pouvez peut-être un petit peu nous expliquer ?
Ben oui, mais tout simplement, quand il y a eu cette invasion, ben on a pu voir toute une série de citoyens qui ont pris les armes pour défendre leur pays. Et la réflexion est née simplement de se dire, ben, si ça devait arriver chez nous, alors c'est peut-être pas la chose la plus probable. Mais voilà, ça, on ne peut jamais rien exclure. Eh bien, si ça arrivait chez nous, comment pourrait-on réagir ? Et puis, de fil en aiguille, en discutant avec un collaborateur, il s'est avéré que bah, il y avait cette possibilité d'être réserviste à l'armée. Finalement, on a décidé de le faire ensemble. Et c'est comme ça que la démarche a commencé. Donc, il y a eu des tests physiques, des tests psychologiques, des tests cognitifs, un entretien aussi pour la fonction. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Et à la fin de ces étapes, eh bien, finalement, je viens de réaliser l'intégration. Alors maintenant, il y aura 2 semaines de phase d'initiation militaire et puis encore 2 semaines d'initiation à la fonction spécifique au niveau de l'armée de l'air pour être totalement, alors dans ce cas-là, lieutenant et donc lieutenant de réserve. Mais c'est en tout cas une expérience que je trouve assez extraordinaire parce que le fait d'avoir passé ces étapes permet de se rendre compte de tous les bienfaits aussi de l'armée. Quand on dit les bienfaits des services militaires, ben oui, c'est là. Je veux dire, on a des tests médicaux comme nulle part ailleurs. Il y a vraiment un esprit de camaraderie. Toutes les catégories sociales se retrouvent. Donc c'est véritablement, une étape qui est intéressante parce qu'elle permet aussi de mélanger les individus et de créer un lien fort et aussi de rendre service à son pays.
Alors justement, on l'a dit, hein, c'est l'invasion russe en Ukraine qui vous a poussé à cette réflexion. Alors à l'heure actuelle, on est à plus d'un an depuis le début de cette guerre en Ukraine. On voit que les Occidentaux continuent de condamner la Russie, de prendre des sanctions. Aux Nations Unies, l'Assemblée générale condamne les crimes de guerre de la part des Russes contre des Ukrainiens. Mais malgré tout, eh bien, la Russie ne semble pas faiblir. Hein. C'est notamment le cas économiquement parlant, étant donné que le dernier rapport du FMI nous apprend que malgré ces sanctions, la Russie résiste. Alors c'est peut-être une question un petit peu vaste, voire naïve, hein, mais finalement, quel est votre avis sur tout ça ? Est-ce que vous pensez que la réponse occidentale, elle est suffisante, notamment en Europe, face à la Russie qui résiste ?
Mais la réponse occidentale est celle qui doit être amenée, même si je pense qu'on peut s'interroger toujours sur l'un ou l'autre élément. Moi, je parle dans les grandes lignes, dans la grande tendance. Oui, c'est la réponse à apporter. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe ne se fait pas suffisamment respecter de la part des autres pays partenaires. Pourquoi la Russie ne résiste pas si mal ? Ben, parce que la Russie a des échappatoires en Chine, a parfois des échappatoires avec la Turquie, qui joue aussi parfois sur 2 tableaux, a des échappatoires via l'Inde. Et donc, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe ne fait pas suffisamment respecter son poids économique aussi, sur la scène internationale. Le soft power, c'est très bien, mais bon, vous savez, le problème de l'Europe, il est triple. Quand vous n'avez pas de force militaire, que vous n'avez pas d'autonomie ou de maîtrise énergétique, et que par ailleurs, vous n'avez pas non plus de politique industrielle, c'est extrêmement dur de peser sur la scène internationale, parce que les valeurs, c'est bien, les principes, c'est bien, mais les autres ne vous attendent pas pour dire de pouvoir mener les politiques qui sont dans leur intérêt. Et donc aujourd'hui, le problème de l'Union européenne, c'est son incapacité à coaliser de façon suffisamment large, à imposer aussi, à parfois être dans des rapports de force avec certaines puissances. Et donc oui, les sanctions européennes aujourd'hui sont contournées par la Russie de façon pas toujours très loyale, si on le veut. Mais le problème, c'est que l'Union européenne n'est pas en capacité à ce stade de pouvoir respecter ces éléments par d'autres pays, ou en tout cas de se faire entendre par d'autres pays.
Ok, je vous propose de parler de politique belge à présent avec cette déclaration du coprésident du parti écolo, Jean-Marc Nollet. Dans les colonnes de La Libre Belgique, ce dernier a déclaré que votre parti, le MR, était en train de se rapprocher du parti nationaliste flamand de Bart De Wever, la NVA, dans la perspective du prochain gouvernement pour 2024, c'est vrai ?
Écoutez, c'est un petit cinéma auquel ils aiment jouer. Moi, en tous les cas, contrairement au Parti Socialiste, j'ai pas de belles photos. Enfin, en tout cas, à Paul Magnette, j'ai pas de belles photos à côté de Bart de Wever devant le palais. Hein, ils ont négocié ensemble tout l'été. Ils ont passé un bon moment ensemble. C'est super. Moi, j'ai même pas de photos, je crois, à côté de Bart de Wever. Et c'est pas grave, d'ailleurs. Mais donc, voilà, je pense que chacun doit regarder un peu dans sa poche. Mais il était évident, et ça j'ai été très clair, je préfère constituer le gouvernement qui est le plus homogène sur le plan philosophique. Et donc je privilégierai toujours un gouvernement qui récompense mieux le travail, qui a le sens de l'effort, qui a une vision de protéger nos concitoyens, qui a une certaine volonté en matière de fixation de règles transparentes, qui, encore une fois, récompense les entrepreneurs, les investisseurs, les travailleurs, qu'un gouvernement de la déresponsabilisation systématique, de l'allocation, du chèque, ça c'est clair. Et donc, oui, si je peux faire une alliance de centre-droit et en ce compris avec la NVA, le CDNV, l'OpenVLD, bien évidemment que je privilégie ce gouvernement à un fatras qui soit n'est pas très bien situé sur le plan philosophique, soit pire, qui pencherait à gauche. Ça, c'est une évidence. Donc, il n'y a pas un grand mystère. Par contre, je trouve que ce serait bien que eux arrivent à clarifier leur position par rapport au PTB. Parce qu'on n'arrête pas de me parler de la NVA, mais la NVA, ça reste un parti démocratique. Moi, il y a deux partis avec lesquels on ne gouvernera pas. C'est le PTB et le Belingue. Mais par contre, je pense que ce n'est pas très clair par rapport au PTB en ce qui concerne Écolo et le PS. Donc, ce serait bien qu'ils fassent preuve de clarté en la matière avant de juger les autres. Mais j'ai l'impression que c'est quand même l'apanage de la gauche de juger les autres pour ne pas qu'on parle de leur propre turpitude.
Et donc, est-ce que pour 2024, vous prôneriez un gouvernement sans PS ni écolo, comme la suédoise de Charles Michel jusqu'en 2019 ?
Moi, je ne fais pas d'exclusives, contrairement aux autres, parce qu'à chaque fois qu'on fait des exclusives, on doit les payer. Donc j'essaye, encore une fois, de faire le gouvernement le plus homogène possible. Mais tant que vous êtes un parti démocratique, potentiellement, on peut être partenaire. Nous, on a mis une condition qui est très claire, c'est la poursuite du nucléaire. On ne va pas monter dans un gouvernement encore du bricolage énergétique, de l'instabilité énergétique. Donc le nucléaire sera un élément majeur. Mais pour le reste, on fera avec les partenaires démocratiques que les élections permettent d'avoir.
J'ai une petite question qui me taraude depuis que je suis journaliste indépendante. Vous parlez du PS et d'écolo qui prônent les allocations, etc. Vous n'avez pas l'impression que les indépendants sont les grands oubliés des logiques PS, écolo, où on donne beaucoup d'alloc aux salariats, finalement?
Ils ne donnent même pas les allocs aux salariats, ils donnent les allocs à l'inactivité. Et donc, oui, c'est évident qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste et d'ailleurs les syndicats de gauche de façon globale ne protègent plus le travail. Ils protègent l'inactivité, ils protègent l'oisiveté, ils protègent la couverture sociale. Mais ils oublient une chose, c'est que pour avoir de la couverture sociale, il faut que des gens bossent pour pouvoir la financer. Alors oui, les indépendants sont oubliés, mais je pense qu'il y a beaucoup de cadres, beaucoup d'ouvriers qui aujourd'hui sont oubliés. Moi, j'avais encore hier au téléphone quelqu'un de mon entourage qui a un revenu d'ouvrier et qui me disait, il est dans des procédures en justice par rapport à une autre personne qui, elle, est une personne qui touche des allocations sociales. Et il me dit, voilà, cette personne-là, tous ses frais de justice sont payés par l'État. Moi, les miens, je dois les payer, mais j'arrive plus à les payer. Donc ça va jusqu'à le fait de ne plus avoir une égalité des arts, même sur le plan de la justice. Donc oui, il y a deux modèles de société qui s'affrontent. Je pense que le modèle socialiste est en échec, et il l'a prouvé. Il suffit de voir les résultats de la Wallonie. Donc, enfin, je veux dire, moi, je ne comprends même pas comment on peut encore défendre le projet socialiste. Il suffit de prendre tous les paramètres de la Wallonie, les comparer à la Flandre, ben, vous avez le résultat. Merci, bonsoir. Moi, à leur place, ben, je sais pas, j'assumerai ma responsabilité. Manifestement, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Et pour 2024, le président du PS, Paul Magnette, ne cache pas son intention de candidat au poste de Premier ministre. C'est votre cas?
Bon, écoutez, mon cas, c'est surtout de faire triompher d'abord le MR, deux, de pouvoir avoir un programme de législature qui détermine des réformes pour mieux récompenser le travail, augmenter le taux d'emploi, renforcer la sécurité de nos concitoyens, garantir le maintien du nucléaire, garantir la neutralité de l'État. Puis après, on verra. Bien sûr, quand on fait de la politique, diriger un exécutif reste un honneur extrêmement particulier. Mais je ne fais pas cette campagne pour servir mon parcours personnel. Je suis président d'un grand parti. Je suis président, en tout cas, du parti que je veux présider, du plus vieux parti d'Europe continentale. C'est déjà un immense honneur. À titre personnel, je suis déjà comblé. Quand j'ai débuté en politique, je n'aurais pas... J'aurais pas osé nécessairement me dire que j'allais me retrouver dans cette fonction. Donc voilà, le côté waouh, découverte personnelle, avoir prouvé que vous pouvez accéder à des fonctions et gérer des responsabilités, je l'ai déjà fait, donc je cours plus après ça. Il y a un côté qui est vouloir tout le temps courir après des postes, il y a un côté qui est puéril, en fait, je pense. Et donc, bien sûr, s'il y a cette possibilité, vous ne refusez pas de diriger un gouvernement. Mais je pense que ce qui compte surtout, c'est le programme qu'applique ce gouvernement. Parce qu'être Premier ministre d'un gouvernement qui n'applique pas les idées auxquelles vous êtes attaché, ce n'est pas nécessairement utile non plus.
Une dernière question, Georges-Louis Boucher. Je vous propose de revenir à présent à l'actu internationale. Hein, et on va parler d'Israël. Hein, vous le savez, c'est un sujet qui compte beaucoup pour nous à Radio Judaïka. Alors, on voit qu'actuellement, la situation est très tendue dans le pays à plusieurs niveaux. Hein, sécuritaire, notamment avec, je le rappelle, l'attentat de vendredi dernier où une maman et ses deux filles ont été assassinées par un terroriste palestinien. Mais on voit aussi des tensions internes au sein du pays avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui déchaîne les passions. Pas seulement en Israël, mais aussi sur la scène internationale. En dehors d'Israël, est-ce que ici en Belgique, ça préoccupe ce gouvernement israélien ?
Bon, je pense tout d'abord que il faut rappeler que Israël est la seule démocratie de la région. Il y a des difficultés de politique intérieure, comme dans plein de pays aujourd'hui. Il y a des débats semblables, par exemple en Italie, sur la législation relative aux homosexuels, par exemple. Et que ce qui relève de la politique interne doit rester au niveau de la politique interne. Et je pense que c'est extrêmement enthousiasmant de voir que, oui, il y a un vrai débat démocratique dans la société israélienne, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les pays avoisinants. 1 million de personnes qui descendent dans les rues contre un projet de loi, ben, ça veut dire qu'effectivement, il y a une difficulté, il y a des tensions en la matière. Mais bon, pour le moment, il y a eu des signaux qui ont été envoyés, qui étaient les signaux clairs de dire qu'il faut rester dans le cadre d'un état de droit. Je pense que c'est important. Je crois que le Premier ministre a réagi aussi en fonction. Mais moi, je ne vais pas faire partie de ceux qui crient avec les loups et surtout qui font un mélange de tout. Parce que la situation intérieure israélienne amène certains à vouloir rediscuter relations avec la Palestine, rôle d'Israël, place d'Israël dans le monde, etc. Il ne faut pas tout mélanger. Effectivement, c'est un gouvernement qui, à un moment donné, peut interroger, peut susciter des questionnements. Mais jusqu'à présent, c'est le gouvernement qui est élu démocratiquement. Donc, tant que les principes constitutionnels sont respectés, ça ne discrédite en rien le pays. Donc, moi, je suis assez impatient de voir la suite des débats. Donc, oui, il faut vraiment être attentif. Mais dans le même temps, je pense que la capacité de réaction de la société israélienne a montré que c'était une vraie démocratie et que les leviers existent justement pour des contre-pouvoirs qui sont suffisamment forts.
Merci beaucoup, Georges.
Merci à vous.
Merci.
À bientôt.